Messieurs, dames, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à l'écoute de Panorama Économie. Puis le titre avant de commencer. Tous les 19 États membres du COMESA doivent être connectés au système régional dit IREPS. Ceci est l'une des nombreuses résolutions de la 20e réunion du comité de gouverneurs de Banque Centrale du COMESA tenue cette semaine du 24 au 27 novembre à Kinshasa. Le commissariat provincial au plan de la province du Bas-Congo s'est assigné la mission de réduire le délai du dédouanement des marchandises au port international de Matadi. Le commissariat place ceci dans le rang des objectifs d'initiative à résultats rapides dans le cadre du plan de performance dont l'évaluation est prévue dans les 100 jours qui viennent. L'Institut national de recherche agronomique INERA Yangambi, nous sommes en province orientale, éprouve d'énormes difficultés de fonctionnement. Ce centre fonctionne actuellement à 55% de sa capacité initiale à cause des multiples difficultés, notamment le manque d'équipements modernes. Et pour commenter toute l'actualité de la semaine dans Panorama économique, nous recevons Michel Somoué qui est avec nous au téléphone. Il est professeur de la macroéconomie. Monsieur Michel, bonjour et bienvenue à Panorama économique.
Bonjour Daniel et merci de m'avoir invité.
Panorama économique, le dossier.
Le résumé de la semaine dans ces trois dossiers que nous allons vous proposer. Le premier, fin jeudi à Kinshasa, de la 20e réunion des gouverneurs de Banque Centrale du COMESA. À l'issue de cette réunion, le gouverneur de la Banque Centrale du Congo est intronisé président du comité des gouverneurs des banques centrales du COMESA.
Les gouverneurs réunis à Kinshasa ont aussi pris la résolution de faire connecter toutes les banques centrales de 19 États membres du système régional des paiements et des règlements. En quoi ce système est important? Deogracias Mutombo, Mwananyimbo, gouverneur de la Banque Centrale du Congo et président du comité de gouverneurs des banques centrales du COMESA, explique au micro de Radio Okapi.
Ce système offre beaucoup d'avantages, des facilités pour les opérateurs économiques, importateurs, exportateurs qui font des transactions intra-COMESA. Le cas, par exemple, de la lettre de crédit qui ne requiert pas la confirmation et donc l'existence de frais de confirmation n'est pas là. Donc, c'est des frais à moins. Et également, il y a d'autres avantages du fait de ne pas passer par des banquiers, des correspondants intermédiaires. Donc, il y a tout à gagner pour nos opérateurs économiques, les banques, à faire des transactions au travers de ce système régional de paiement. Il faut savoir que l'objectif final de notre regroupement, c'est la zone monétaire. Et ce n'est pas un rêve, il y a beaucoup de pays en Afrique qui sont dans des zones monétaires. Donc nous y arriverons un jour avec la convergence des agrégats macroéconomiques.
Deuxième dossier de la semaine et direction Bas-Congo, réduire le temps que prennent les opérations de dédouanement de marchandises au port international de Matadi, c'est la mission que s'est assignée le commissariat provincial au plan.
Au cours de l'entretien avec Radio Capi, le commissaire provincial au plan, Simon Bosso Kiampoutou, a déclaré que la vision s'est améliorée et le climat des affaires. Il a dit à l'issue d'un atelier sur le projet de capacité de gestion des fonctions de base de l'administration publique organisé par le Service national de renforcement de capacité, SENAREC, avec l'appui de la Banque mondiale. L'évaluation de ce plan de performance est prévue dans les 100 prochains jours. On l'écoute au micro de Dani Kinandita.
Trois initiatives qui vont être exercées, l'une par les commissariats au plan, c'est pour accompagner la Direction générale des douanes accises, la Société congolaise de ports et de transports, donc l'Exonatra, l'ordre opérationnel qui se trouve au port, donc l'OCC, les quatre services qui doivent fonctionner au niveau du port à travers les guichets uniques. Nous allons les accompagner pour réduire ces délais de 63 jours aujourd'hui. Nous voulons le ramener dans 100 jours à 15 jours maximum et en tout cas au cours de l'année 2015 on doit être au maximum à 7 jours. Nous voulons nous aussi avoir un guichet unique dans les 100 jours qui viennent. à Matadi pour que des nouvelles sociétés soient créées en 3 jours. Nous devons réduire les temps, les délais. Quand on réduit les temps et les délais, on réduit aussi les coûts.
Le dernier dossier nous conduit en province orientale. L'INERA Yangabi ne fonctionne plus qu'à 55% de sa capacité initiale.
Nous sommes à 100 km à l'ouest de Kisangani. Selon les directeurs de ce centre, le manque d'équipements modernes est à la base de cette baisse du niveau de fonctionnement de l'INERA. Bertin Kasongo Moussassa, directeur du centre de recherche de l'INERA, explique au micro des Godelive au Mondo.
Notre institut garde quand même sa place parmi les autres instituts de grande renommée. Nous sommes en train de nous efforcer pour pouvoir relancer les activités, raison pour laquelle nous sommes en train de renforcer notre collaboration avec les autres instituts internationaux. Vous avez ici chez nous des chercheurs qui viennent de partout pour venir faire leurs travaux de thèse. Nous sommes néanmoins limités par certaines contraintes, tels que le manque d'équipements modernes, hein, parce qu'à l'heure actuelle, les infrastructures ayant été endommagées ou les laboratoires étant devenus vétustes, il faut les renouveler. Avec l'évolution de la science, il faut un appareillage, un matériel approprié. Nous avons le problème d'électricité, le problème d'eau courante, c'est ce qui fait que nous sommes un peu limités. Et puis, la connexion à l'Internet pose des problèmes parce que nous n'avons pas de frais de fonctionnement à l'heure actuelle. Aussi pour la formation de nos chercheurs, il n'y a pas de fonds de fonctionnement alloués pour ça, c'est-à-dire que les chercheurs doivent se débrouiller dans le cadre des réseaux de recherche internationaux pour attraper une bourse par-ci par-là, mais au niveau national, il n'y a pas une programmation pour cette formation. Notre fonctionnement, je dirais, nous sommes autour de 55%, parce que le financement que nous avons de la recherche, chaque agent est payé, il touche quand même régulièrement son salaire, bien que ça soit maudit.
Voilà, les gouverneurs des banques centrales du Comesa, nous vous avons parlé du plan du commissariat général de la province du Bas-Congo et nous avons fini dans ce dossier par l'INERA qui ne fonctionne plus qu'à 55% de ses capacités initiales. Michel Somoué, vous commentez l'actualité de la semaine avec nous. Si vous le permettez, nous commençons décroissant, nous prenons le dernier dossier et nous remontons au premier, c'est-à-dire l'INERA qui ne fonctionne plus qu'à 55% de sa capacité, alors qu'aujourd'hui on parle de l'agriculture sur toutes les lèvres et dans tous les programmes, on parle de la relance de l'agriculture, mais cette relance, elle doit nécessairement passer par de bonnes recherches.
Oui, Daniel. Moi aussi, comme tout citoyen congolais, consciencieux du rôle que l'INERA a joué, pas seulement dans notre pays, mais en Afrique, je formule ce vœu que des regards un peu plus attentifs de la part des décideurs, du gouvernement en l'occurrence, puissent se tourner vers cet institut de recherche qui a fait la fierté de notre pays. Vous savez, j'étais impressionné une fois à Côte d'Ivoire, à Abidjan. J'ai été impressionné par l'étendue et la taille des palmiers dits les palmiers nains qui sont en Côte d'Ivoire. J'ai même dû prendre quelques échantillons pour ma curiosité et pour le plaisir de ma parcelle. Et j'étais étonné d'apprendre que ces palmiers nains que j'amenais de la Côte d'Ivoire étaient partis de Yangambi.
De l'INERA
Yangambi, à Kisangani. Je ne sais pas si Kisangani ou quoi, mais de l'INERA Yangambi, dans la province orientale.
Oui, c'est en province orientale, oui.
Et on parlait de l'INERA Yangambi là-bas comme d'un centre de recherche particulièrement mieux étoffé, mieux édifié, très utile pour l'Afrique, parce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire un pays à grande palmeraie, un pays qui peut produire de l'huile de palme à grande échelle, grâce aux recherches de Yangambi. Le cas de la Côte d'Ivoire n'est pas un cas unique en Afrique. Il y a beaucoup de pays qui ont bénéficié des recherches scientifiques de Yangambi. Et c'était un centre qui accueillait des chercheurs de par le monde entier pour pouvoir améliorer les conditions de fonctionnement de leurs économies, de leur agriculture respective. Donc, vu ce rôle, moi je pense que laisser un tel institut mourir, ce serait manquer de vision pour l'avenir de ce pays, surtout que depuis des années, on a toujours parlé de l'agriculture dans notre pays comme priorité des priorités. Espérons qu'un jour, cette priorité des priorités va se traduire dans les faits, et un des faits que nous voulons voir à l'œuvre, c'est notamment la relance de l'INERA. Moi, je pense que si on relance l'INERA, ça vaut plus pour moi que de lancer des projets agricoles comme du genre et Bukangalonzo, etc. Moi, je pense que, comme disent les Chinois, apprends-moi à pêcher, j'aurai à manger chaque jour plutôt que de me donner un poisson. Je pense que Bukangalonzo ressemble à un poisson que l'on donne. Mais si on relance Inera Yangambi, j'ai l'impression qu'on a appris au Congo à pêcher et à faire de l'agriculture une véritable priorité des priorités.
Ainsi, nous allons prendre le second sujet. Nous remontons le commissariat provincial du Bas-Congo qui tient à réduire le temps, hein, le délai des opérations d'édouanement au port de Matadi. On est aux alentours de 100, de 63 jours. Il veut le ramener à 15 jours et au finish même à 7 jours pour l'an 2015. Le temps, c'est de l'argent, dit-on.
C'est exact. Moi, je pense que la douane au Congo ne joue pas franchement le rôle d'un instrument de développement de l'économie nationale quand on tient compte de tous ces coûts-là, parce que le temps aussi, c'est un coût excessif. Bon, qu'un responsable, un ministre provincial, s'engage à réduire les coûts, ne fût-ce qu'en termes de délai, c'est déjà un petit pas. Mais je suis quand même étonné de l'entendre parler du guichet unique comme un projet. Mais il y a plus de 15 ans qu'on parle de ce guichet unique à Matadi. Ça m'étonne que ce guichet demeure toujours un projet jusqu'à aujourd'hui. Finalement, on en parle comme quelque chose qui est déjà réalisé. Demain, celui qui vient vous donne l'impression que ça n'a jamais été fait.
Bon, Cette fois-ci, il se donne 100 jours pour que la province ait ce guichet unique, peut-être on peut croire.
Si vraiment ce guichet unique n'existe pas encore, alors cette fois-là sera peut-être la bonne et il faut le souhaiter. Réduire les délais en matière de dédouanement des marchandises, c'est rationaliser l'économie, c'est accélérer le fonctionnement de l'économie. On en a besoin pour une économie qui voudrait se rattraper par rapport à des retards excessifs que nous avons accumulés des siècles durant. Donc il est important que la douane fonctionne de façon plus efficace, notamment dans cette facilité de... dans cette célérité de processus de dédouanement. Mais je sais aussi que par ailleurs... on devrait plutôt se poser la question de savoir pourquoi ça traîne tant, qu'est-ce qui fait que les marchandises durent si longtemps, parce que moi je sais que au même port de Matadi il y a des marchandises qui sont dédouanées pratiquement dans un délai de 24 heures. Ça arrive aussi à Matadi. Pourquoi certains peuvent dédouaner des choses en 24 heures, 72 heures et les autres attendent 3 mois, etc. D'où vient le problème? Moi je crois qu'il faut qu'on pénètre le mal dans sa profondeur. Il y a des non-dits dans cette histoire et dire qu'on va écourter le délai de dédouanement des marchandises ne suffit pas, ce n'est qu'un vœu si on ne comprend pas les causes qui sont à la base de ce prolongement, de ces rétentions des marchandises pendant longtemps. Daniel, si vous me permettez, je me souviens avoir eu quelques expériences de dédouanement des marchandises ou des biens à Matadi.
C'est justement ce que je voulais vous poser comme question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dédouaner de la marchandise dans
oui,
ce port
plus d'une fois.
Pour nous donner votre propre expérience.
Je suis descendu moi-même à Matadi plus d'une fois. J'ai été impressionné par la façon de fonctionner de la douane. Donc ça vous avez dire... un dossier qui doit circuler, et j'encourage qu'on parle du guichet unique, vous avez un dossier qui doit circuler, en dessous de chaque dossier, le dossier vous le tenez vous-même dans vos mains, et ça passe, et tous les agents sont alignés là, du moins à la période où j'avais été là plusieurs fois, c'est ça que j'avais vécu, à moins qu'ils aient changé les structures, mais après ce que j'avais vu, c'est ça que je rapporte là, les agents étaient alignés, un à un, l'un à côté de l'autre, les gens de la douane, alors et le dossier doit passer par les mains de tous ces gens qui sont alignés dans la même salle. Et chaque fois que le dossier doit partir d'un individu vers celui qui est à sa gauche, vers son voisin direct, vous, le propriétaire du dossier, vous devez accompagner de ce dossier-là d'un petit billet de banque en dessous. Et l'autre, ce qui l'intéresse, c'est le petit billet de banque qu'il récupère immédiatement, qu'il met dans son tiroir, et il accorde la signature sans se préoccuper de trop de détails dans le dossier. Et ça passe vite. Voilà comment en 24 heures, vous pouvez donner votre marchandise. Quand vous n'avez pas accompagné ce dossier d'un petit billet de banque en dessous,
alors,
celui qui
vous
le
attendez
reçoit,
3
le
mois
dans son tiroir et prend le suivant. Et ça se passe comme ça. Moi, je crois que il y a un problème de corruption honteuse qui se passe au niveau de la douane. Et tant que ce pays n'a pas lutté efficacement contre la corruption, cette histoire des guichets uniques, cette histoire d'écourtement des délais, etc., ça va demeurer un vœu pieux. sinon un simple populisme.
Et monsieur Sommet, ceci me pose tout de suite à aborder le premier sujet, la réunion des gouverneurs des banques centrales du COMESA qui a clôturé ses travaux jeudi à Kinshasa. Et je pense que la démarche que les gouverneurs de du COMESA sont en train de mener ont comme point de chute la création d'une zone douanière. Est-ce que vous pensez que la RDC, à vous entendre parler, peut participer, peut avoir sa place dans cette union douanière?
Écoutez, moi je crois que vous voulez parler de l'union monétaire.
Justement.
Il s'agit quand même du gouverneur.
C'est aussi un des objectifs.
Je vous en prie. Alors, parce qu'il s'agit de gouverneurs des banques centrales qui ont un projet et une finalité, j'ai entendu le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogratias Mutombo, que je félicite en passant pour avoir été élevé à la dignité de président de gouverneur de Banque centrale de COMESA. Mm-hmm. Je l'ai entendu dire que l'objectif final, c'est de parvenir à une zone monétaire, mm-hmm. et pourquoi pas à une union monétaire, pour être plus complet. Je crois que ça, c'est un objectif que les pays africains poursuivent depuis l'année 1980, c'est-à-dire depuis le lancement du plan d'action de Lagos, mm-hmm. qui est un plan d'intégration de l'économie africaine, qui a aligné, qui a cité un certain nombre d'actions qui doivent être menées à travers tous les pays africains pour parvenir à cette union économique, pour parvenir à ce marché unique africain. C'est en fait ça le projet. Mm. Pour arriver à ce marché unique africain, on estime que le point de concrétisation de ce marché unique africain, c'est l'union monétaire et l'union douanière. Mais il y a des difficultés pour y parvenir. Si on parle aujourd'hui de cette, comment ils appellent ça, que moi j'appelle ça une chambre de compensation en fait, quand ils disent qu'ils ont créé une structure à laquelle tous les pays africains, tous les pays membres du commerce sont connectés pour leurs paiements intra-régionaux,
oui.
Mais c'est du déjà vu, du déjà répété, mais qui a échoué de la même façon. Parce que ça, c'est le COMESA, mais la CEAC s'était déjà dotée d'une chambre de compensation des États de l'Afrique centrale qui avait même son siège ici à Kinshasa. Donc, pour faciliter justement les paiements entre les opérateurs
les
économiques
membres,
au
ouais.
sein de la région, de ouais. la communauté des États de l'Afrique centrale,
oui.
La CEAC, c'est la même chose que le COMESA. Ils ont les mêmes objectifs. Ils s'adressent presque au même pays, à peu près, je dis pas les mêmes pays en termes de nom, je parle des mêmes pays en termes de similitudes, de ressemblances, mm-hmm. pour ce qui est des difficultés qui les caractérisent tous. Parvenir à une union monétaire pose beaucoup de questions en termes de préalable qui, sans être pessimiste, je ne voudrais pas dire que c'est impossible. Mais je voudrais dire qu'il faut d'abord que ces pays se dotent véritablement entre eux-mêmes des économies effectives, des économies intraverties. Je veux parler en termes plutôt, pour être plus précis, des marchés intérieurs viables. Il faut qu'il y ait dans des pays africains au préalable une fonction d'offre et une fonction de demande dans chaque pays qui caractérise le système économique national. Et c'est maintenant en partant du système économique national qu'on va définir des politiques qui gèrent efficacement ces structures économiques, ces systèmes économiques nationaux. Et on recherchera maintenant dans un troisième temps la possibilité de convergence de ces politiques économiques respectives de ces pays. Aujourd'hui, parler de la zone monétaire, par exemple, moi je dis, pour la plupart des pays, notamment des pays comme le Congo, c'est un rêve. Même quand on parle de la zone CFA comme une zone monétaire, mais c'est une zone bidon, ce n'est pas une zone monétaire, pourquoi on en parle ainsi? C'est une communauté de pays dépendants de la France. C'est pas une zone monétaire, ce sont des pays qui sont soumis à la politique monétaire de la, heureusement, pas de l'Union européenne, de l'Union européenne, mais là, de la zone euro. Mais au départ, d'ailleurs, CFA signifiait simplement colonie française en Afrique. La zone CFA, c'est rien d'autre que la transcription en Afrique des politiques monétaires de la France. Ce sont des zones qui vivent, qui évoluent sous la soumission, sous le contrôle d'un pays. Ce sont des pays qui restent économiquement dépendants de cette puissance. Et c'est tout ce qu'on appelle zone économique. Ce n'est zone monétaire que pour les intérêts de la France.
C'est
pas pour les intérêts du pays.
C'est difficile que le commissaire débouche à cette conclusion.
Mais je crois que le commissaire devrait s'inspirer abondamment des échecs des pays de la zone CFA. Pourquoi autant d'années après, plus de 50 ans presque d'existence de ces zones-là, de cette zone monétaire CFA, mais pourquoi ces pays ne se sont jamais développés? Combien de pays de la zone CFA sont cités sur la liste des économies émergentes jusqu'à aujourd'hui? Vous verrez que c'est du blabla, il n'y a rien là-bas. Mais alors, si, pourquoi il n'y a rien? Parce que justement, au départ, permettez-moi la faute, nous n'avons pas des économies, je dis, nous n'avons pas d'économies, je vais parler de choses précises, nous n'avons pas des économies viables dans nos pays respectifs. Nous avons des économies étrangères qui sont implantées dans nos pays respectifs. C'est le cas notamment du Congo. Lorsque un pays comme le nôtre vit à 90%, même plus de 90% avec une monnaie étrangère, en quoi cette économie lui appartient-elle? Quand on crée de la monnaie dans ce pays, la monnaie que l'on crée par le système bancaire, y compris la banque centrale, est-ce que c'est le franc congolais qui est créé ou c'est le dollar américain qui est créé? Chaque création de dépôts équivaut à une création monétaire. Mais alors il faut se rendre compte quels sont les dépôts qui sont créés régulièrement. Est-ce que ce sont des dépôts en francs congolais ou ce sont des dépôts monétaires?
Non, les dépôts en francs sont très
faibles. Ou ces francs qu'on émet. Est-ce que cette monnaie, elle est étrangère ou elle est nationale? Alors l'économie qui reçoit cette monnaie, est-ce une économie nationale, une économie étrangère? C'est là le premier problème, Daniel. Moi, je crois qu'il faut d'abord donner à nos pays respectifs un peu plus de sérieux dans la gestion de leur politique monétaire et de politique budgétaire respective.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
À présent, le reste de l'actualité de la semaine en plus bref dans nos provinces, et nous allons commencer par la province orientale. Lundi, nous avons parlé de l'évaluation de l'exercice 2014 à l'OCC, et au cours d'un point de presse à Kisangani, le président du conseil d'administration de l'OCC a annoncé que plus de 80% des orientations données à l'Office congolais de contrôle province orientale ont été réalisées, mais au regard des fraudes qui s'appliquent au niveau des frontières et qui échappent à ce service, le PCA appelle les opérateurs économiques au bon sens et à ne pas exposer la population congolaise aux intoxications. Le PCA de l'OCC appelle aussi le gouvernement provincial à lui prêter main forte dans cette noble mission.
Lundi encore, nous parlions de la pénurie dans la ville de Zongo. Nous sommes à l'Équateur, où il devient difficile de manger actuellement dans cette partie à l'extrême nord de cette province. En croire le maire de la ville, Michel Siazo, la nationale Zongo-Gemena, principale voie d'approvisionnement en denrées alimentaires, reste coupée à plusieurs endroits par les inondations. Les eaux des pluies qui s'abattent depuis un mois sur la région empêchent les véhicules d'amener les produits vivriers à Zongo. Avec le flux actuel de réfugiés centrafricains dans la ville, le maire ajoute que les prix ont augmenté sur le marché et la situation devient intenable, surtout pour les fonctionnaires qui ne sont pas payés depuis 3 mois.
Mardi, nous avons parlé des 48 camions poids lourds incendiés et 40 personnes blessées dans les entrepôts de la douane de Kasumbalesa au Katanga, selon le bilan dressé ce mardi matin par le chef de la cité. Mais les conducteurs de gros camions estiment qu'il s'agissait plutôt de 70 camions qui ont été ravagés par les flammes, faisant 5 blessés graves. Plusieurs sources concordantes affirmaient que l'incendie était dû à la collision de 2 camions citernes transportant du carburant dans le parking situé à côté de l'entrepôt de la DGDA.
Autre actualité au Bas-Congo, les agriculteurs du territoire de Tchila ne savent plus écouler leur production vers les lieux de commercialisation. Le chef de service du développement rural de ce territoire l'a souligné, c'était mardi, dans un point de presse. Barnabé Mavambou parle de la dégradation très avancée de toutes les routes de l'essai agricole, une situation selon lui qui expose la population de Tchela à plusieurs conséquences donc économique.
Nous arrivons à Kinshasa où les agents de City Train s'insurgent contre la disparition de cette société de transport en commun de l'État. Ils réagissaient au projet de décret portant dissolution présenté en ce sens par le ministre des Transports et Voies de Communication lors du Conseil des ministres du 10 novembre dernier. Dans une déclaration faite à Radio Capi, le président de la délégation syndicale de City Train souligne qu'avec la création d'une nouvelle société de transport, le ministre des Transports, Justin Kalumba, avait promis de donner du travail à ses agents. City Train, qui compte 500 employés, veut tout simplement être relancé parce que l'État congolais lui doit 11 millions de dollars de dettes certifiées, a martelé Bernardin Nyema.
Voilà, un autre syndicat parlé, c'est celui de Rassemblement pour l'épanouissement des entreprises du Congo, RANECO. Guy-André Chimanga a fait savoir qu'en réponse aux revendications du syndicat, le gouvernement provincial de Kinshasa a revu à la baisse la patente 2014 pour les petits commerçants et vendeurs. Pour tous ceux de la première catégorie qui avaient payé l'équivalent de 20 dollars américains de patente en 2013, l'autorité de la ville vient de revoir à 5000 francs congolais cette patente pour 2014 et elle sera payée par tranche. Le président du syndicat RANECO, qui avait formulé cette demande, s'est dit un peu satisfait, mais reste sur sa soif parce que d'autres revendications n'ont pas trouvé une suite favorable.
Merci François pour cette ronde de l'actualité économique dans nos provinces. Le temps de retrouver notre invité, Michel Somouin. Michel, vous avez suivi cette série d'actualités de la semaine avant de boucler cette émission. Vous placez un commentaire quelque part?
Oui, Daniel. Le commentaire, c'est que le tableau que vous venez, les informations sommaires, telles que vous venez de la parcourir, m'inquiète un peu, parce que elle ne dresse qu'un tableau sombre de notre économie. Que l'on prenne la situation des prix à Zongo, que l'on prenne la situation des infrastructures routières, vous avez dit à Tchela, prenne la situation du City Train à Kinshasa, que l'État ne veut pas reconnaître ou qu'il ne veut pas payer ou qu'il passe sous silence habituellement. Qu'il s'agisse de la situation des camions de transport
à
Kasumbalesa, ça me semble quand même être un tableau plus ou moins apocalyptique.
On n'a pas choisi que ce qui est négatif, mais c'est ce qu'a été l'actualité de la semaine.
Ben c'est ce que je constate. Je ne suis pas en train de vous accuser d'être pessimiste ou d'être trié des faits malheureux, mais je constate que le fonctionnement de l'économie nationale, tel que vous le résumez à travers cette actualité, il est inquiétant à mon humble avis. Inquiétant d'autant qu'il doit interpeller les gestionnaires plutôt que de nous contenter de nous emprisonner dans des messages d'autosatisfaction qui sont malheureusement distillés par des fausses félicitations qu'on nous envoie par la communauté internationale. Moi, je pense que nous avons des grands efforts à fournir, que ce soit en matière de gestion de la monnaie et de l'économie, parce qu'on a parlé des prix, pendant que nous sommes un pays qui est en train de se féliciter de records de bas taux d'inflation. Pendant que nous sommes un pays en train de nous féliciter des niveaux les plus élevés de la croissance parmi les meilleurs de l'Afrique. Alors je crois qu'il y a des efforts qu'il faut fournir pour nous approcher de la réalité au quotidien de la vie des citoyens congolais. Mais si je peux placer un petit mot, le dernier, c'est pour revenir à ce dossier qui me paraît quand même être trop important, celui de la démarche que nous faisons vers la zone monétaire.
Oui.
Je dis c'est important parce que nous soyons dans le cadre de la CAC, du COMESA, de la SADC, etc. Là, je me demande pourquoi on doit être dans toutes ces structures à la fois. Mais l'objectif reste celui-là. Je suis d'accord avec l'intégration de l'économie africaine. Je suis d'accord avec la création d'un vaste marché africain. Mais il faudrait quand même que, avec votre permission, j'attire l'attention des décideurs sur quelques désavantages pour le moment de la zone monétaire. Il y a aussi des avantages, bien sûr. Mais les avantages me paraissent être, pour moi, des défis qu'il faut pouvoir relever. Mesurer notre capacité de nous élever au-dessus de ces défis-là, et alors à ce moment-là, on peut s'engager. Vous savez, Daniel, lorsque on s'engage dans une zone monétaire, la première chose que l'on perd, c'est l'instrument d'ajustement quand je parle de taux d'échange, tout ça c'est dans l'action économique internationale. Lorsque vous voulez améliorer le fonctionnement de votre économie, améliorer votre position sur le marché extérieur, si vous voulez jouer un rôle important sur le marché international, si vous voulez tirer des bénéfices de votre commerce international, vous devez savoir manipuler le taux d'échange. C'est un instrument capital dans l'action économique, dans les échanges. Or, quand on adhère à une zone monétaire, on tend vers le taux d'échange fixe. Ça veut dire qu'on renonce à un instrument de régulation économique capitale sur le marché international. La deuxième chose que nous allons perdre, c'est l'autonomie de la politique monétaire et donc le seigneuriage. Nous ne pouvons plus avoir manipuler les taux d'intérêt en faveur de notre économie intérieure. Les taux d'intérêt deviennent des instruments de régulation de la balance des paiements. Donc ça n'a plus rien à voir avec les priorités de l'économie interne. C'est une grande perte. Ne parlons même pas du seigneuriage, parce que nous l'avons perdu depuis longtemps, mais il ne faut pas qu'on encourage qu'on le perde davantage. Donc, le seigneuriage permet à l'État soit de diminuer le coût, la charge de sa dette intérieure, soit de se doter des moyens nécessaires pour la création de ce qu'on appelle les biens collectifs, notamment les routes, la santé, etc. Et ça s'améliore le budget de l'État, si vous voulez. Mais nous allons le perdre. Nous allons le perdre la même temps que nous sommes en train de tendre vers l'union douanière, c'est-à-dire vers la réduction des barrières douanières. Mmh. Et nous savons dans notre pays que c'est la douane qui procure le plus de ressources nationales.
Jusque-là.
Quand on va aller vers l'union douanière, ça veut dire qu'il n'y a plus. Ça devient la libre circulation des capitaux, la libre circulation des marchandises. Et même si on est dans une zone monétaire optimale, même la libre circulation des facteurs du travail, le travail, le capital, tout devient, tout circule librement. Nous allons perdre cet avantage qui est important dans une économie qui vit essentiellement des droits de porte. Et je crois que rien qu'avec ces deux pertes, le taux d'intérêt, le taux de change, le seigneuriage, je pense qu'on doit réfléchir par deux fois avant de nous engager vers la zone monétaire, non pas pour ne pas y aller, mais pour être interpellé par la nécessité d'améliorer notre politique monétaire intérieure pour qu'elle soit demain capable de relever ce défi.
Merci beaucoup Michel Somoué d'avoir répondu favorablement à notre invitation et d'avoir porté toutes ces critiques, toutes ces analyses et commentaires sur l'actualité économique de la semaine. Merci beaucoup et à la fois prochaine.
C'est moi qui vous remercie, Daniel.
Et merci aussi à vous, chers auditeurs. Retrouvez Panorama économique toute la semaine sur www.radiocapi.net. Très bonne fin de semaine à toutes et à tous.